C'est comme s'il y avait une volonté du Rwanda de rallumer la polémique et de détourner l'attention de la communauté internationale sur une question très sérieuse, mais qui n'est pas nouvelle, à savoir effectivement la responsabilité de la France dans les événements de l'époque. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas tellement dans les bons papiers de plusieurs gouvernements occidentaux ces temps? Je dirais que ça dénote d'un certain mal-être, d'un certain malaise peut-être des autorités rwandaises aujourd'hui, mais disons que c'est pas très étonnant quand on connaît la façon de s'exprimer du président Kagame. Il a toujours été extrêmement virulent à l'encontre de la communauté internationale, ce qui est un petit peu un paradoxe parce que d'un côté, on applaudit sa façon de voir les choses, sa vision du futur pour le Rwanda, son discours de la reconstruction, de la réconciliation, mais en même temps, on accepte et on tolère, en tout cas jusqu'à un certain point, que Paul Kagame s'érige un peu en donneur de leçons et fasse comme si lui, de son côté, n'avait pas non plus l'intention de tourner une page.
Est-ce que le Rwanda arrive à panser ses plaies aujourd'hui, notamment à travers une justice qui serait réparative ?
C'est une question très très difficile. Vous avez d'une part ce projet de réconciliation, c'est important qu'il existe, c'est important qu'il soit là comme un modèle pour la population. Mais sur le terrain, comment se vit cette réconciliation, c'est quelque chose de très abstrait. Les Rwandais, quand vous leur parlez et qu'ils se sentent en confiance pour vous parler, parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda, on ne dit pas n'importe quoi en public. Il y a quand même un régime autoritaire qui contrôle toute information publique. Les Rwandais vous disent c'est une réconciliation administrative, une réconciliation de l'État, une réconciliation qui nous est imposée d'en haut. Il y a une cohabitation, le pays vit en paix, je veux dire, il y a un système de la vie quotidienne qui a repris. Les Rwandais sont forcés d'habiter ensemble. Mais par contre, au niveau de la réconciliation, si on entend par cette notion l'idée de se faire confiance, de s'accorder un pardon, l'idée de croire en un projet commun, je crois qu'on est très très loin d'une réconciliation aujourd'hui au Rwanda.
Et justement, est-ce que la justice suit ou pas du tout ?
Il y a eu plusieurs tentatives de rendre justice. Il y a eu d'abord le tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, qui a traité un certain nombre de cas de responsables présumés et condamnés par la suite de crimes de génocide. Il y a eu ces initiatives Gachacha, ces tribunaux populaires qui étaient censés faire la justice, je dirais, à travers les collines, sur place, au milieu de la population. Dans les deux cas, la justice n'est pas complètement aboutie, parce que dans le premier cas, vous avez des gros poissons qui courent toujours, des coupables présumés qui sont toujours en fuite, et puis ça a coûté très très cher. Et en plus, on dit que cette justice à Arusha s'est déroulée un petit peu loin, enfin très très loin, je dirais, de ceux des Rwandais et Rwandaises qui ont vécu le pire. Et puis au niveau des gachacha, il y avait cette tentative de faire parler la population de ce qui s'est passé, il y avait cette tentative de justice restaurative, à savoir pour renouer des liens en même temps que des peines attribuées aux coupables du génocide. Mais ce qui se dit, c'est que c'est une justice locale qui a toujours dépendu d'un contexte politique qui, en fait, voyait l'histoire dans un seul sens, à savoir qu'on ne pouvait traiter que des cas d'actes de génocide. Or, il faut savoir quand même qu'il y a eu du côté de l'armée patriotique rwandaise, donc la rébellion Tutsi qui a, dit-on, libéré le pays sous les ordres de Paul Kagame, il y a eu des crimes de masse, des crimes contre l'humanité aussi très très importants, et ça la population Hutu, qui était donc elle-même victime de ces crimes de la rébellion Tutsi, n'a jamais pu les aborder dans le cadre de ces gachacha. Beaucoup de Rwandais s'en plaignent sur place.
Dans le génocide, la majorité des victimes est Tutsi, mais il y a également des Hutu. Est-ce que l'idée de votre livre, c'était de donner la parole à ces victimes un peu oubliées ?
Oui, tout à fait. L'histoire récitée, l'histoire commémorée au Rwanda est celle du génocide, à savoir de bourreaux Hutus qui ont pourchassé avec une violence inouïe et une méchanceté monstrueuse, une haine viscérale, donc cette population Tutsi. C'est le génocide dont on parle et c'est très important de le commémorer aujourd'hui. Mais voilà, on oublie et le gouvernement Rwanda n'a aucun intérêt à bien sûr rappeler que de son propre côté, à savoir quand il était encore cette rébellion Tutsi qui attaquait depuis l'Ouganda, entre 1990 et 2000, vous avez toute une série de crimes qui, des rapports l'attestent et de nombreux témoignages aussi l'attestent, y compris de l'intérieur de cette rébellion d'ailleurs. Vous avez cette rébellion qui donc a commis des crimes de masse qui, selon une juridiction qui serait encore à être mise en place, pourrait être qualifiée de crimes de guerre, si pas crimes contre l'humanité. Et ces Hutus, de l'intérieur du pays, ceux qui sont au Rwanda, n'ont aucune chance d'exprimer en fait leur souffrance, d'exprimer la perte de leurs proches et n'ont pas de mémoriaux, pas de tombes. C'est une histoire qui est complètement divisée en deux et la mémoire ne joue que dans un seul sens, la mémoire n'est autorisée que dans un seul sens, celle celle des victimes du génocide des Tutsis. Il était donc en fait très important de rappeler à tout le monde, à l'opinion publique, qu'il y a aussi des Hutus en masse qui ont souffert de ces violences à l'époque.